Voilà, moi je vais vous parler d'un tout autre sujet qui rejoint en certains points ce que tu as dit. Je vais vous parler de l'androcentrisme. Je me présente, Sylvie Perrin-Amstutz. J'ai gardé mon nom de jeune fille en premier. J'ai mis le nom de mon mari en second. Je suis maman de 3 enfants. Je suis très heureuse parce que nos 2 filles aînées sont là, adolescentes. Et c'est en partie pour cette génération-là que cette journée existe. Pour répondre à leurs questions, à leurs interpellations que nous avons eues à la maison. Et parce que nos réponses avec Vincent était forcément incomplète et qu'on avait envie que l'Église se positionne pour répondre à ces questions et que ce ne soit pas que la société qui le fasse. Je dirais que mon rôle de maman, donc je suis maman, je suis aussi active dans différents projets de transition écologique au niveau, on va dire ça, au niveau de la terre, de la permaculture et de la nourriture. Et j'enseigne aussi à la Haute École de théologie un cours sur l'écologie intégrale. Mais je dirais qu'au-delà de tout ça, mon rôle de maman, c'est ce qui m'a le plus profondément changé, c'est ce qui m'inspire le plus, et c'est pour eux et cette génération qui vient que j'ai envie que la société change et que je suis là devant vous aujourd'hui et qui m'engage dans différents engagements dans ma vie de tous les jours. C'est pas les formations que j'ai faites, c'est pas mes voyages, c'est cette mue parentale qui m'a profondément transformée. Alors voilà, aujourd'hui c'est un peu une gestation, ça fait 9 mois qu'on a cogité à cette journée. On est heureuse que ça accouche enfin. Inutile de vous dire que les débats ont été riches. On n'a pas toutes le même avis, on n'a pas toutes la même histoire, on n'a pas toutes la même histoire d'église non plus. Mais c'est ça qui a été vraiment passionnant, et de retourner cette problématique dans tous les sens du terme. Et je dois vous dire qu'en parlant de féminisme, de féministes dans nos entourages, ça a suscité toutes sortes de réactions. Parfois agressives, parfois d'incompréhension. Quand même beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes qui ne comprennent pas la nécessité du féminisme ou qui y sentent une odeur de poudre. C'est un peu explosif quand on aborde ce mot une fois à Noël ou dans les fêtes de famille. Vous verrez que tout de suite, ça suscite des discussions. S'il y a des temps morts, sortez la carte féminisme et ça va combler les vides. Mais ce que je tiens à dire, c'est que le féminisme, ce n'est pas une guerre contre les hommes. C'est une lutte contre les structures pour les empêcher de... Non, attendez, je me plante là. C'est une lutte contre les structures qui permettent à la domination de perdurer. C'est contre des structures et pas contre des personnes. Et ça, je trouve que c'est très important de le comprendre parce que vous n'êtes pas visé personnellement. Alors voilà, ce qui revient très souvent, c'est que les barrières sont levées. Dans ces gens qui ne comprennent pas la nécessité d'une journée comme celle-là, on a souvent entendu dire « mais finalement, voilà, il y a eu le droit de vote, vous avez une assurance maternité, l'accès aux études et aux métiers est quasiment égal, aux carrières, et maintenant il y a même une loi en plus sur l'égalité des salaires. Donc en gros, finalement, le problème il se trouve où ?» On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, on va un peu gratter. Alors, un mot sur l'androcentrisme pour vous expliquer ce que c'est. C'est un mode de pensée qui est conscient ou non, et où en fait la pensée masculine organise un système de valeurs et de pensée pour tout le monde, en fait, femmes compris. Voilà. Alors, c'est vrai que moi je me suis posé la question finalement, mais quelle histoire, quelle tradition, quel récit j'ai envie de transmettre à mes enfants ? C'est quoi, est-ce que j'ai envie de transmettre l'héritage que j'ai reçu en un bloc à ma famille, ou est-ce que j'ai l'audace et le courage de revisiter mon histoire familiale, mais aussi éducative, en me disant là, ça a dérapé, et là, il y a des choses que je ne veux pas reproduire. J'ai pas envie forcément que mes enfants aient la même histoire de vie que ma grand-mère, j'ai pas forcément envie de donner la même éducation sexiste que j'ai reçue, je dis pas au niveau familial, mais au niveau scolaire, au niveau de ma vie professionnelle, j'ai pas forcément envie que mes filles subissent le même harcèlement que j'ai vécu. Ça, c'est les questions que je me suis posées. Alors, dès ce moment-là, où est-ce que ça a dérapé? Et qu'est-ce qu'on pourrait être amené, nous, en tant que chrétiens, en tant que société, à changer cette perception du monde androcentriste? Je vais maintenant vous proposer quelques balises historiques, parce que notre génération, j'ai été élevée avec une maman qui n'avait pas le droit de vote, qui ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, qui devait demander l'autorisation à son mari. Ça, c'est mon héritage, comme l'héritage de femmes un peu plus âgées que moi, où on a grandi dans ce milieu-là. Alors pour la jeune génération, mais aussi pour la mienne, c'est peut-être pas superflu de rappeler, j'ai fait une sélection de 10 dates importantes au niveau du droit des femmes en Suisse qui sont rentrées dans la Constitution. Alors attention, on s'accroche. 1971, les citoyens masculins disent oui au droit de vote et d'éligibilité des femmes, dont l'excellent film « L'ordre divin » qui est là au fond, relate l'histoire et le combat de ces femmes. On leur dit encore merci. Mais juste pour voilà, une info, vous savez bien que dans d'autres pays, en Grande-Bretagne c'était au début du siècle, dans les îles, en Australie c'était encore bien avant le début du siècle que le droit de vote a été donné aux femmes. Donc on n'est pas du tout précurseur en Suisse, en France c'était en 1945, etc. 1978, les femmes obtiennent l'autorité parentale sur leurs enfants. Les parents mariés exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants, appelée auparavant puissance paternelle. 1981, l'égalité entre femmes et hommes entre dans la Constitution. 1982, attention, une décision de justice rejette les conditions d'admission plus strictes pour les filles dans l'enseignement. 1988, 17 ans après le droit de vote, lors de la révision du droit matrimonial, la disposition selon laquelle l'homme est le chef de la famille et la femme responsable des tâches ménagères disparaît. Les femmes peuvent désormais ouvrir un compte en banque ou exercer une activité lucrative sans l'accord de leurs époux. J'avais 16 ans à cette époque. 1991, grève nationale des femmes. Je crois que certaines y étaient même dans cette salle. Bravo à elles. L'article constitutionnel sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes a 10 ans, mais il n'est pas appliqué. Un demi-million de femmes sortent dans la rue pour réclamer une assurance maternité, un congé parental. On voit qu'on n'en est pas sorti. Des places de crèche, une éducation sans sexisme ou encore un meilleur partage des tâches. 1992. Accepter lors d'une votation référendaire le viol conjugal peut être poursuivi sur plainte. 1996. Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'égalité. Interdiction générale de la discrimination dans la vie professionnelle, que ce soit à l'embauche, en matière de rémunération, donc là on est 24 ans en arrière, de promotion, d'attribution des tâches ou de résiliation des rapports de travail. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est également interdit. 2012, interdiction des mutilations génitales féminines, parce que oui, ça se passe aussi dans notre pays. 2018, adoption de la révision de la loi sur l'égalité. Le texte dicte aux entreprises de plus de 100 personnes de contrôler les salaires des hommes et des femmes, mais ne prévoit pas de mécanisme de contrôle. Alors on voit malheureusement que les mœurs ont la vie dure et que les lois ne règlent pas tout. Que fait-on de la problématique de la violence conjugale et des féminicides en Suisse? Est-ce que quelqu'un connaît le chiffre des féminicides en Suisse, du nombre de femmes qui meurent chaque année? Je sais que tu sais. John? Ou alors par chance pas. Le nombre de féminicides en Suisse par année, c'est 25. Donc ça veut dire 2 par mois. Une toutes les 2 semaines qui meurt sous les coups de son compagnon. Et ce triste palmarès nous place avant l'Italie, avant l'Espagne et juste derrière la France. Pour casser les idées reçues sur les pays du Sud qui sont plus violents que nous. Hein. Alors les 2 questions qui me sont venues en lisant cette évolution du droit des femmes en Suisse... C'est quand même, comment dans ces conditions, l'amour véritable est-il possible dans un couple? Comment est-ce qu'on peut se faire confiance, développer une intimité de couple, quand l'un projette une image inférieure sur l'autre? Parce que toutes ces lois que je vous ai dites, c'est ça en fait, c'est qu'on considère l'autre comme inférieur. Comment peut-on avancer en couple quand on pense que la femme n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque, qu'elle n'est pas assez mature pour le faire, qu'elle doit demander l'autorisation pour aller travailler à l'extérieur, etc., etc. La deuxième question que je me suis posée, c'est que notre constitution, elle date de 1848, et qu'à l'époque, c'est des hommes qui l'ont créée, des hommes majoritairement chrétiens, vu que la société était beaucoup plus christianisée à l'époque. Comment le christianisme a-t-il pu arriver à une dérive pareille d'un genre sur l'autre, sans réagir, alors que l'évangile dit l'inverse? On parle d'une société de privilèges lorsqu'une partie de la société pense la société pour tous les autres et qu'elle favorise en plein de manières ceux qui la mettent en place. Ça donne le privilège masculin ou le privilège de l'homme blanc. Alors, bien évidemment, on en parle beaucoup maintenant avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui se révolte contre ce privilège blanc, d'une société qui pense les choses en faveur d'eux, donc les blancs, et en défaveur de tous les autres. Et moi, je dois vous avouer que dans ce privilège blanc, je me suis retrouvée. Parce qu'en creusant la question, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je bénéficie de ce privilège blanc en tant que femme suissesse, chrétienne, hétérosexuelle, chrétienne, voilà. Avec un nom de famille à consonance neuchâteloise. Enfin, pas pour Ramstutz, mais Perrin. C'est pour ça que j'ai gardé, hein. Faut pas rêver. Je fais partie de cette société de privilèges. Et je crois que c'est ça le grand dame de la société de privilèges, en fait. C'est qu'on ne réalise pas qu'on en fait partie. Et tant qu'on ne réalise pas qu'on en fait partie, on ne se rend pas compte qu'on a des privilèges et que d'autres n'en ont pas. Et après, j'ai une amie qui avait un nom de famille à consonance algérienne, qui avait beaucoup de discrimination à l'embauche. Et elle s'est mariée avec notre témoin de mariage, qui a un nom de famille à consonance neuvilloise ou alémanique. Et les choses ont complètement changé. C'est ça la société de privilèges. Et là, je me suis dit, forcément, face à elle, on n'a pas les mêmes chances ou les mêmes malchances. Donc, prendre conscience que, d'une manière ou d'une autre, on fait partie de cette société de privilèges. Et qu'en plus, pour nous les femmes, la question de la race ou l'identité sexuelle se rajoute le fait qu'on n'est pas des hommes. Et que le privilège masculin, vous, là je vous parle en vous, mais ce n'est pas vous personnellement, vous, société homme, vous êtes avantagés sur plein de choses. Quand même quelques chiffres qui sont toujours utiles. À Bordeaux, par exemple, en 2016, 83% des femmes ont déclaré dans l'année avoir subi du harcèlement dans la rue. Là, je vais parler de Lausanne. À Lausanne, 72% des Lausannoises se disent harcelées dans la rue. Ça, c'est une société de privilèges qui, en fait, admet des pratiques de culture. C'est culturel, hein, voilà. On harcèle, on siffle, on met une main aux fesses. Ça, c'est culturel, c'est admis. Et pour ceux qui le pratiquent, c'est avalisé, en fait. Alors moi, ces injustices, elles me sont arrivées. Ces blagues sexistes, ce harcèlement. Et au moment où ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est de l'injustice, ça ne va pas. Et puis, il y a eu la déferlante MeToo. Et là, on se rend compte que ce n'est pas juste des actes injustes, mais que c'est une culture qui permet ces agissements. Et que si on ne le dénonce pas, ça se reproduira. Et moi, cette société-là, je ne la veux pas pour mes enfants. Maintenant, je vais revenir sur trois points quant à l'évolution du droit des femmes en Suisse. Le premier... Quand ce qui a de la valeur est en lien avec ce qui rapporte de l'argent, comment la société patriarcale, enfin, quelles sont les valeurs que la société patriarcale entretient? Alors, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Ben voilà, ce qui rapporte de l'argent, ça a de la valeur. L'accès aux études, et si possible aux hautes études, ça a de la valeur. Tout ce qui vous élève socialement, ça a beaucoup de valeur dans la société patriarcale. Et puis, de l'autre côté, on va prendre, par exemple, ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est de l'ordre des soins, du soin à la vie, du soin à la terre, du soin aux aînés, de l'éducation, de la maternité. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur dans la société. On peut gagner sa vie avec, mais rien à voir. Et en l'occurrence, voilà, pas très compliqué de voir où se situent les femmes. Les femmes sont dans ce travail de gratuité, de soins de la vie, majoritairement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qui ai élevé mes enfants pendant 17 ans, de ne pas pouvoir, dans un CV, le mettre en valeur, alors que j'ai acquis des compétences, et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va le plus transformer. Ça, c'est un système de valeurs qui attribue des choses bien précises aux deux sexes. Mais en fait, c'est des récits qu'on se raconte. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de récit, de changer d'histoire, hein? Et que notre société ne soit pas vue uniquement à travers le prisme de la société patriarcale. Alors voilà, le travail gratuit des femmes est un ascenseur social pour les hommes. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'inverse? Que les hommes se mettent à travailler gratuitement pour nous permettre, à nous les femmes, de monter socialement. Alors, avec un peu de chance, quand ça a été dit ce matin, dans mon couple, dans notre couple, on discute et puis on arrive à trouver un équilibre entre qui fait des sacrifices à tour de rôle pour l'autre. Ça, c'est dans la meilleure, dans le meilleur des cas, ça se passe comme ça. Et ça, c'est un équilibre à chacun de le définir. Mais majoritairement, c'est quand même pas ce que je vois. Si l'éducation aux enfants avait de la valeur, alors je pense que plus d'hommes peut-être s'engageraient dans ce travail-là, à temps partiel. Pourquoi est-ce si dur pour un homme d'obtenir 50% pour être à 50% à la maison pour ses enfants et à 50% à son travail? On pourrait imaginer une société comme ça. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça matche pas? Est-ce que les filles sont encouragées de manière égale à entrer dans ce modèle patriarcal? Moi, j'ai deux de mes amies qui ont mon âge, où le papa les a empêchées de faire des études et des hautes études. Les hautes études, c'était réservé pour les garçons dans la famille. Cette amie, elle aurait voulu devenir pasteur. Elle est devenue infirmière. Ses sœurs sont devenues mères au foyer ou infirmières. C'est une grande famille. Et ses frères sont devenus chirurgiens, ingénieurs ou pasteurs. Et cette fille, elle a mon âge. Elle est brillante. Une autre de mes amies, ben voilà, elle était sœur, il y avait le frère. Et c'est le frère qui a pu faire des études à l'Uni. Pour vous dire que c'est pas d'un autre temps, hein, ce dont on vous parle là. C'est des histoires qui se passent maintenant. La valeur liée au genre, ça commence depuis tout petit, dans les projections que les parents font sur leurs enfants. Et puis ça, Google, c'est un outil génial aussi, qui permet plein d'analyses. Et on voit qu'aux États-Unis et en France, les parents tapent beaucoup plus de fois sur Google « mon fils est-il surdoué ?» Deux fois plus. « Mon fils est-il surdoué ?» que « ma fille est-elle surdouée ?» Toujours sur Google, les parents tapent deux fois plus « ma fille est-elle en surpoids ?» que « mon fils est-il en surpoids ?» Donc d'un côté, l'intelligence pour les gars, et de l'autre, la beauté et le lien au corps pour les filles. Donc ça pose la question de la construction de la masculinité depuis tout petit. Elles en ont aussi abordé ce matin un peu la question. D'une société où le masculin ne se construit pas sur une comparaison hiérarchisante avec l'autre. Et puis, j'ai une fille que j'ai eue au culte de l'enfance il y a quelques années, puis je l'ai revue. Et puis, elle fait une petite brochure qui s'appelle « Nous, les écolos ». C'est des filles d'Autriche de Saint-Blaise, elles ont 12-13 ans. Et chaque fois, elle m'envoie sa petite brochure. Et puis, cette fois, elles ont fait un numéro spécial, c'est « Nous, les écolos féministes ». Et ces filles, elles ont 12 ans. Et puis, elles ont parlé du test de Bechdel, hein, dans tous les films où la femme n'a pas sa place, où elle parle toujours d'un homme sans parler d'elle-même, etc. Et puis, il y a des réflexions. Je vous lis la phrase. Nous avons posé les questions suivantes autour de nous. Avez-vous été témoin de remarques sexistes et avez-vous des solutions à proposer? Alors, je vous lis la réponse de Stécie, qui a 12 ans. Oui, un camarade de ma classe a fait et fait toujours des remarques déplacées jusqu'à même toucher les fesses d'une fille, ce qui n'est point normal. Deuxième remarque de Stécie, toujours. En sport, les professeurs disent que les garçons sont évidemment plus forts que les filles, alors que moi, j'ai très bien fait la meilleure note en basket, contrairement aux garçons. Solution, revoir l'éducation des parents. Voilà, ça c'est des petites filles qui ont 12 ans. Hein. Voilà, juste pour vous dire que moi j'en ai 47 et que cette problématique, elle n'est pas réglée pour ces petites filles. Elles voient bien qu'il y a un problème qui est toujours là. Le deuxième exemple, issu des dates que je vous ai dit inscrites dans la Constitution en faveur des femmes, les lois. Alors, je vous ai cité cette loi sur l'égalité des salaires et par chance, au 1er juillet 2020, les entreprises de plus de 100 personnes seront tenues maintenant de faire une analyse et d'avoir un organe de contrôle. Yes, on est content. Mais ma curiosité a été piquée de me dire, mais finalement, ok, pourquoi les entreprises de plus de 100 personnes et pas celles entre 1 et 99? Et je suis allée voir quand même, ça représente quoi les entreprises suisses entre 1 et 100 personnes? Je ne sais pas, vous avez une petite idée. Alors, la source, elle est sûre. Hein, c'est le portail PME, site de la Confédération, accessible. En deux minutes, j'avais la réponse. Ça concerne le 99% des entreprises. Voilà. En pourcentage d'employés, ça représente le 56% des employés. Donc cette loi, en gros, elle concerne 1% des entreprises, pas que je me plante dans mon calcul, et 44% des employés. Oui, la volonté, quand on veut pas, hein, ben on fait pas. Et puis quand on veut vraiment que les choses changent, ben on se bouge. Troisième sujet. Je pense qu'il est temps aussi de détabouiser certains sujets dans l'Église. Alors on va le faire maintenant. Et on va parler de la représentation des organes génitaux féminins et du clitoris. Oui, on s'accroche. Par rapport à cette loi sur l'excision, on pourrait se dire, mais finalement, ça ne nous concerne pas en Suisse. Ça concerne juste 200 millions de femmes dans le monde. Mais en Suisse, quel est le problème? Ben, en Suisse, c'est quand même 14 700 femmes menacées de l'être ou qui ont été excisées. Parce que ça se fait dans des cabinets privés, parce que ça se fait quand les petites filles partent en voyage l'été avec leurs parents et qu'elles reviennent et qu'elles ne sont plus les mêmes. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la représentation donc, des organes sexuels féminins dans les manuels d'anatomie de sciences de la vie. Alors là, c'est seulement en 2017 que pour la première fois, l'anatomie complète du clitoris a été correctement représentée dans ces manuels, sur un manuel sur 8 présents en librairie en France. En 2017. La conséquence de ça, parce que évidemment, je ne vais pas juste vous parler de ça pour vous parler de ça, il y a une conséquence à ça. C'est que selon un rapport sur l'éducation sexuelle remis en France en 2016, la conséquence, c'est que un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles possèdent un clitoris et que 83% ignorent son unique fonction érogène. Quand on désinforme, ben on désinforme. Et quand on représente le clitoris par une tête d'épingle, eh ben, on sait tous que c'est pas une tête d'épingle, je sais pas, messieurs, est-ce que vous avez une idée de la taille du clitoris, peut-être? Les filles, elles savent, mais messieurs, je sais pas. Quelqu'un se lance? À part Vincent? 7 cm. Perdu? Quelqu'un d'autre? Gaël, t'es hésitant? La taille du clitoris qui devrait figurer sur un manuel d'anatomie. Ouais, bien joué. T'as de la chance, Ruth. 10 cm. Voilà, ça c'est la taille. C'est 8, 9, 10 cm. Alors, selon la gynécologue Yasmine Abdulkadir, DHUG de Genève, cette omission elle se retrouve jusque sur les bancs des facultés, avec aussi la conséquence, selon elle, de lésions, parce que quand on ne sait pas ce qu'on opère et qu'on ne sait pas que le clitoris ne fait pas 5 mm mais 10, eh ben, on crée des lésions. Maintenant, une petite phrase du docteur Bianchi De Micheli, médecin chargé de la consultation de gynécologie et médecine sexuelle au HUG. Du moment que l'on montre la structure des organes génitaux mais que l'on n'illustre pas le clitoris, on réalise une opération qui est de l'ordre de la censure. Alors vous voyez, coupé, mutilé, caché, mal représenté, on se rend bien compte que dans une société patriarcale, cet organe uniquement dédié au plaisir crée des problèmes. Ça, en 2020. Et là aussi, j'ai pas envie que mes filles grandissent dans cet univers-là. Cette justice sociale que nous voulons voir s'établir, c'est une affaire pas uniquement de femmes, mais les hommes sont vraiment invités à être des alliés dans ce combat. Mais ce matin, je trouve que ça a tellement bien transparu dans les propos des deux oratrices. On est tous invités à cheminer pour créer une autre société. Et puis une société qui arrête d'être dans le pouvoir sur les autres et qui passe au pouvoir de l'intérieur. Et forcément que quand on n'a pas le pouvoir de l'intérieur, eh bien, on passe au pouvoir sûr, typique d'une société patriarcale. J'aime ce terme de l'insurrection, insurrection des consciences à mener. J'aime ce mot parce qu'il me fait me redresser du dedans, il me fait me mettre debout, être sujet de ma vie. Il consonne avec résurrection, avec ressort, avec résilience. Et pour moi, l'insurrection, c'est le contraire de la soumission, c'est le contraire de la peur et c'est le contraire de la tiédeur. Et je trouve que c'est essentiel d'être en insurrection sur ce qui cherche à nous dominer. Et pour moi, ça définit beaucoup plus que le féminisme, finalement, mes engagements, parce que c'est une insurrection, évidemment, contre la discrimination faite aux femmes, mais c'est un engagement, une insurrection face à la maltraitance de la Terre, de la planète. C'est une insurrection contre un système patriarcal capitaliste qui bousille nos ressources. Et c'est une attitude qui m'engage. Cette insurrection, elle me renvoie aussi à l'apôtre Paul. Mais je suis un peu plus clémente, je dois dire, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que je me rends compte que oui, l'apôtre Paul prône la libération, qui prône l'abolition de toutes les barrières sociales, mais qu'à la fois, il est pris dans une époque, il est pris dans son époque, de son temps, et qu'il a navigué entre les deux. Et puis, j'ai l'impression que pour nous, au XXIe siècle, eh ben, c'est la même chose. On a envie de cette abolition, on a envie de cette liberté, de ce caractère libérateur de l'Évangile, mais qu'on est pris dans l'éducation qu'on a reçue, dans ce qu'on lit dans les journaux, dans le fait qu'on nomme pas les mots ou qu'on nomme pas ce qu'est la société patriarcale pour les femmes et à la manière dont elle oppresse aussi les hommes, je tiens à le dire. Mais le seul qui est échappé à cette ambivalence, c'est le Christ, parce que ses réponses aux questions des humains échappent à toute religiosité. J'aime ses réponses aux femmes et aux hommes parce qu'à chaque fois, sa réponse, elle est aimante, elle est libératrice. C'est une réponse qui nous met en mouvement. C'est une parole qui n'enferme pas dans des rôles. C'est une parole qui fait confiance. C'est une parole qui n'a pas de pensée limitante, qui ne réduit pas au silence. C'est une parole qui nous encourage à choisir la meilleure part et non pas celle qu'on a pensée pour vous ou que d'autres aimeraient que vous ayez. Mais quelle est la meilleure part? Jésus le dit. Tu as choisi la meilleure part. Il nous engage à le faire. Et puis pour moi, dans ce sens-là, Jésus est bel et bien révolutionnaire. Et il va bien plus loin que nos lois actuelles en 2020. Alors comme Marie, Marie-Madeleine et Salomé, qui ont eu peur d'être empêchées d'aller rouler la pierre, qui ont eu peur de ne pas avoir les forces physiques, qui ont eu peur de faire face au pouvoir des soldats et de ne pas y arriver. Moi, je crois que c'est très important, à l'image de ces trois femmes, que nous aussi, les femmes, on se mette en route ensemble pour cette libération. Qu'on s'unisse, non seulement entre nous les femmes, mais ensemble, hommes et femmes, pour dire notre élan pour le changement et le désir d'une justice de genre réelle. Alors je conclue, oui, l'androcentrisme n'est pas une fatalité, mais c'est un déséquilibre qu'il nous faut nommer pour le mettre en lumière et pour qu'il nous permette de nous mettre en mouvement et de nous rendre libres.